Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Nous poursuivons notre exploration des chemins de lecture dans la Bible en abordant la troisième et dernière étape de notre parcours. La semaine dernière, nous avions passé en revue les différentes méthodes de lecture proposées par la Commission biblique pontificale. Aujourd'hui, nous allons passer à la pratique, en relisant un grand texte du Premier Testament, le récit de l'appel et du départ d'Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, versets 1 à 9. Nous utiliserons la traduction que vous avez proposée, Père Alain, dans votre livre intitulé « Genèse » et publié en 1999 chez Bayard. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous leurs biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'à Sichem, aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Voilà le pays que je donnerai à ta descendance. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Bethel, et il planta sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. À cet endroit, il éleva un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Négev. Ce texte inaugure le récit des patriarches avec la grande figure d'Abraham. Que savons-nous, Père Alain, de la dimension historique de ce récit? Quelles sont les hypothèses sur l'origine du texte? Quel est son degré d'historicité?
C'est une question qui n'est pas si facile. On ne va pas entrer dans les détails parce que ça nous mènerait beaucoup trop loin. Ce que l'on peut simplement dire en résumé, que depuis que la critique est apparue, il y a eu beaucoup de déplacements dans les recherches, dans les propositions. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on est arrivé un peu à une position assez stable. On pense qu'il y a bien sûr un fondement historique très, très lointain, mais que ce fondement historique est très difficile à isoler, dans la mesure où, lorsque, au retour d'exil, on va composer de manière définitive ces chapitres que nous avons sous les yeux, on aura un récit à la fois très théologique, avec bien sûr un fond historique qu'il faut garder dans les lieux qui sont évoqués, vous l'avez cité certains lieux, dans les noms qui sont donnés, qui sont des noms qui sont tout à fait de l'époque. Donc ça veut dire on est un peu dans, on pourrait dire, les années 1800-1900 avant Jésus-Christ, mais bien sûr revus, repensés à travers toutes les expériences d'Israël avec l'Exode, avec l'exil.
Alors justement, à propos des noms, pourquoi le narrateur utilise-t-il le nom Abraham et non pas Abraham, qui n'apparaîtra que plus loin dans la Genèse ?
Alors, il y a plusieurs explications. Peut-être au plan littéraire ou narratif, l'explication la plus simple, c'est de se dire que Abraham va changer de nom, comme Sarai va changer de nom. Donc, il y a une étape qui est un tournant dans leur destin, où celui qui s'appelait Abraham, bref, va s'appeler Abraham, et Sarai, qui s'appelait Sarai, va s'appeler Sarah. Alors, si on regarde les noms dans l'étymologie, aujourd'hui, on ne fait pas de distinction. Abraham, c'est un nom que l'on connaît dans le Proche-Orient ancien. Ce sont la plupart des noms, d'ailleurs, que nous avons dans ces chapitres, avec les fils, Isaac, Jacob, tous ces noms-là sont des noms que l'on trouve en particulier dans les grands textes que l'on a découverts datant des années 1900 ou 1800 avant Jésus-Christ. Donc, ce sont des noms cohérents. Et Abraham, il y a deux interprétations possibles. Soit mon père est grand, Ab, c'est le père, Ram, c'est grand, soit mon père est aimé, le verbe aimer, qui est un verbe qu'on trouve dans la plupart des langues anciennes. Et donc, faut pas s'attarder trop, si vous voulez, comme Sarai, c'est très beau l'étymologie, puisqu'elle s'appelait Sarai, et quand on fait une lecture un peu populaire de ce mot-là, Sarah, c'est la princesse. Et donc, Sarai, c'est ma princesse, le I étant la première personne en hébreu. Et Sarai va devenir Sarah. Le « i » va tomber, c'est-à-dire elle n'est plus la princesse d'Abraham, mais elle est la princesse tout court, c'est-à-dire elle est devenue autonome. Et c'est un moment important aussi dans l'expérience de Sarai, qui a beaucoup sacrifié pour Abraham, comme vous le savez.
Alors il y a un autre nom qui surprend, c'est le nom de Dieu. Le premier mot du texte, « le Seigneur », traduit en fait le tétragramme hébraïque, qui est imprononçable et qui a été révélé à Moïse bien longtemps après Abraham. Comment expliquer cet anachronisme ?
Alors, je vais exceptionnellement utiliser un mot un peu savant. Quand on écrit des textes, il arrive qu'on veuille rapporter un événement qui s'est passé beaucoup plus tard historiquement, mais qu'au moment où on l'écrit, on peut en parler parce que ça s'est passé. Or, c'est ce qui arrive, ce qu'on appelle une prolepse. Une prolepse, ça consiste à mettre un événement qui n'a pas eu lieu au plan historique, mais qui au plan narratif est connu. Donc l'expérience du nom de Dieu qui s'appelle Adonai, Yahvé, le tétragramme, n'apparaîtra qu'avec l'Exode. C'est Moïse qui va donner naissance à ce tétragramme. Mais comme l'auteur qui écrit après l'Exode et après l'exil, bien sûr, il donne déjà à Dieu le nom qu'il aura avec l'Exode. Donc, et comme on évite, par respect un peu pour le peuple juif, on évite d'utiliser le mot Yahvé. On utilise le mot que les Hébreux disent quand il y a les tétragrammes, ils disent Adonai. Et donc on a traduit le Seigneur. Et chaque fois que nous avons le Seigneur, ça veut dire que c'est le mot hébreu Yahvé.
Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi ce mot Yahvé qu'on utilise souvent dans la Bible. Alors le récit proprement dit commence par une parole de Dieu. Le Seigneur donne un ordre à Abraham. « Pars de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. » Cet ordre est assorti de promesses et de bénédictions. Comment peut-on lire ces paroles divines ?
Alors, on se rend pas compte, quand on lit ces textes, de leur poids théologique, de leur poids, on pourrait dire, historique. Ce sont des récits qui ont été pensés, médités à travers l'expérience du peuple juif, et en particulier, peut-être, on pourrait presque dire, c'est sans doute les mots parmi les plus forts de toute la Bible. En hébreu, on utilise une expression qui apparaît que deux fois, littéralement, dans toute la Bible, et c'est chaque fois pour Abraham. C'est, alors je le dis en hébreu, mais je traduis tout de suite, c'est « lech lecha », ce qui veut dire littéralement « va vers toi ». Va vers toi. Et l'er lecha, c'est une formule qu'on trouve dans beaucoup de langues, même en français. Quand vous dites en français, par exemple, va-t'en, le T qui est va-toi, c'est la même chose que l'er lecha. Mais les Hébreux vont donner à cette expression une densité étrange, forte. Et ce l'er lecha va être ici, pour le départ d'Abraham, et il va être aussi quand Dieu va lui dire « prends ton fils ». Et conduis-le sur la montagne pour le sacrifier. L'er lecha. Et donc ça veut dire que c'est un appel extraordinaire, c'est la vocation, c'est la mise en route au fond de cette figure d'Abraham dont nous, nous sommes héritiers, nous, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Donc c'est dire que c'est un passage évidemment fondamental et fondateur.
Est-ce qu'on peut parler ici d'une véritable élection d'Abraham par Dieu ? Et si oui, qu'est-ce qui justifierait un tel choix ?
Alors d'abord, justifier un choix ne se justifie jamais. Hein. Quand vous choisissez une femme ou quand une femme choisit un homme, elle le choisit sans doute qu'il y a, il y a des conditions particulières. Mais là, l'élection de Dieu, elle traverse toutes les Écritures. C'est-à-dire, il est pris. Et il est pris, on pourrait dire, là aussi, quand on pense le statut d'Abraham, on a le sentiment que dans la tradition juive et chrétienne, il occupe une place particulière. Vous savez sans doute, on aura peut-être l'occasion d'y revenir quand on fera des approches plus larges, hein, que le Adam et Ève ne sont pas des figures qui se retrouvent beaucoup dans la Bible. Elles n'apparaissent que tardivement et n'ont pas la place qu'elles ont dans la tradition chrétienne. Alors qu'Abraham, il est là depuis le début, c'est-à-dire... Et Abraham, alors si vous voulez, je vous raconte une petite histoire très brève, mais qui nous donne à comprendre ce que c'est que Abraham dans la tradition juive. Il y a une légende très forte dans le monde juif qui dit que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il s'est dit « je ne suis pas sûr que ça réussisse ». Et donc il s'est donné un recours. Et vous devinez bien sûr que le recours, c'est Abraham. Et Abraham, d'une certaine manière, c'est lui qui va sauver au fond ce qui a été échoué par Adam et Ève. C'est dire que c'était véritablement un personnage fondamental et important. Et donc cette promesse au fond de la bénédiction, de l'ouverture, elle va toucher, on pourrait dire, les trois grands peuples monothéistes. On aura sans doute l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais on peut déjà le dire maintenant. Chrétiens, juifs, musulmans, nous sommes les héritiers de celui qui a été choisi, et nous sommes nous aussi choisis dans son héritage.
La réponse d'Abraham est très réactive à cet ordre de Dieu. Elle est impressionnante, surtout qu'il a 75 ans, dit le texte. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Alors, était-il dans une obéissance docile à Dieu ou bien dans une acceptation libre et confiante ?
Nous ne cherchons pas à faire trop de psychologie sur les personnages. Je crois qu'il faut prendre les textes comme ils sont, c'est-à-dire il y a une espèce d'austérité dans la formulation. Il part, on ne cherche pas trop à mettre...
Il part tout de suite,
mais ce n'est pas dans la tradition juive de s'attarder sur des psychologies... comme nous pourrions le faire, non, il part, c'est-à-dire son départ, il va en route et à signaler peut-être et à souligner aussi, il part, Dieu lui dit, pour le pays que je t'indiquerai. Et cette formule, on l'a beaucoup reprise en disant, mais il aurait pu lui dire part pour Canaan, puisque c'est là, vous savez que Abraham était parti déjà avec son père Théra, et puis Lot, pour Canaan. Et ils se sont arrêtés en route, ils se sont arrêtés avant d'arriver à Canaan. Et c'est après qu'Abraham va partir avec son neveu et qu'il va arriver pour la terre que je te donnerai. C'est-à-dire, cette terre, au fond, c'est un don de Dieu. Elle doit être un don de Dieu pour l'éternité, on pourrait dire, pour le peuple juif, pour nous aussi. La terre, elle est sanctifiée, elle est une terre où il faut apprendre à aimer, à vivre. Et donc c'est véritablement ce pays que je te donnerai, ça retentit, on pourrait dire, tout au long de la Bible. Et donc c'est ça la force de ce passage.
Alors vous évoquez ce neveu Lot. Alors effectivement, le texte nous dit qu'Abraham emmène sa femme Sarai et ce fameux neveu. Que représentait-il pour lui ?
Alors, on ne sait pas très bien, c'est-à-dire c'était le fils d'un frère d'Abraham qui s'appelait Théra. Et est-ce qu'il y avait une préférence pour Lot ? Lot va accompagner Abraham jusqu'à un certain point. Ils vont se séparer à un moment donné. Ce sera peut-être un moment important aussi pacifiquement, au moment où ils se disputent sur des sources, puisque dans le désert c'était important, les puits, les bergers... Et d'Abraham et de Lot vont se disputer. Et Abraham, de manière pacifique, va proposer à Lot de se séparer. Et c'est là que Lot va choisir ce qui sera sa serre de destruction, sa Sodome, qui va être détruit. Et puis Abraham va prendre l'autre partie. Donc ça, ils vont se séparer. Mais Abraham va être toujours vigilant sur ce neveu. Il va s'en occuper. Il va aller le protéger quand il sera pris par des brigands. Il est proche de Lot, mais en même temps, ils vont se séparer.
Le narrateur ne dit rien sur le déroulement du voyage, mais précise qu'Abraham et ses proches arrivent sans encombre à destination, c'est-à-dire à Sichem. Il ajoute que le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Voilà le pays que je donnerai à ta descendance ». Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Comment comprendre cette parole de Dieu et l'érection de cet autel ?
Eh bien, ça veut dire qu'Abraham arrive dans une terre qui n'est pas lui. C'est une terre des Cananéens. Et si vous vous souvenez du parcours d'Abraham, Abraham sera toujours respectueux. Quand il va chercher une sépulture pour sa femme, on voulait la lui offrir gratuitement. Non, il va payer, il va acheter une terre. Ça veut dire qu'Abraham, c'est un voyageur. On pourrait presque dire qu'au fond, il est le modèle de ce que devrait être l'Israélite dans cette terre qui lui est donnée. Ce n'est pas une terre pour dominer, ce n'est pas une terre pour prendre possession, ce n'est pas une terre pour chasser les habitants du pays. C'est une terre pour vivre ensemble dans la paix et dans la fraternité. Donc Abraham, en ce sens-là, c'est véritablement le modèle du croyant parfait.
Alors, Abraham ne reste pas à Sichem. Il poursuit ses déplacements à l'intérieur, on l'imagine, de cette terre qui doit être quand même assez vaste, de campement en campement, dit le texte, en direction du Néguev, vers le sud donc. Comment interpréter son mode de vie nomade par rapport aux promesses que Dieu lui a faites, justement ?
Ah ben cette terre, elle lui est donnée, mais elle sera acquise de manière plus définitive après l'Exode, lorsque les Hébreux reviendront. « Pars pour le pays que je te donnerai ». C'est cette terre qui avait été déjà donnée à Abraham, elle sera donnée aussi, mais dans les mêmes conditions, c'est-à-dire une terre que je t'indiquerai. Israël devra s'inscrire toujours dans cette fidélité qu'Abraham va accorder à cette terre, avec son indulgence, avec sa bonté, avec son esprit spirituel, on pourrait dire sa grandeur. Il est le plus grand de tous, hein, et c'est... J'ai eu l'occasion, quand j'étais en Israël, de visiter Hébron. Chaque fois que je visite cette ville, c'est la ville où il est enseveli avec les patriarches, ça me fait toujours un peu mal au cœur de se dire cette ville qui est la ville où Abraham a vécu, où il a été enterré, est devenue une terre de violence et de passion, alors qu'elle devrait être une terre de paix entre toutes les religions, surtout les trois religions monothéistes.
Alors justement, Abraham est souvent présenté comme le père des croyants et on en déduit que les juifs, les chrétiens et les musulmans sont tous des enfants d'Abraham. La relecture de ce texte dans le contexte d'aujourd'hui conforte-t-elle cette vision d'un même enracinement des trois grands monothéismes ?
Alors je crois, c'est-à-dire qu'il y a là une donnée qui est forte hein, dans toutes les religions, peut-être plus dans la religion juive, dans la mesure où ils n'ont pas... un Jésus qui vient accomplir au fond ce grand parcours, puisque Jésus c'est celui qui dit que Abraham s'est réjoui de le voir venir, ce qui est assez beau cette image que nous avons dans Saint Jean. Non, cette idée que nous avons un même Dieu, que nous avons un Dieu monothéiste, c'est quelque chose qui doit nous habiter, et Dieu sait si l'actualité parfois nous porte beaucoup de questions quand on voit comment les chrétiens, parfois aussi les musulmans encore plus, parfois Israël aussi, ont abîmé un peu cette image qu'Abraham a donnée pour chacun de nous.
Et on peut peut-être, en terminant cette émission, retenir que tout est à construire pour bâtir cette paix entre les trois grands monothéismes.
Ah, c'est vrai. Et de temps en temps, oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a des rencontres qui se font. Il y a des religieux dans toutes les religions, les trois religions que nous évoquons. Il y a des signes, il y a des communications. Des grands papes comme le Jean-Paul II, le pape François maintenant, ont beaucoup misé sur le rôle d'Abraham comme étant un dieu de réconciliation à la fois pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. Et Dieu sait si nous sommes dans l'actualité, quand on voit comment la violence peut surgir autour des croyants qui pourtant ont eu la même promesse d'être les héritiers de cet Abraham qui était le premier des grands croyants, on pourrait dire. C'est le croyant par excellence. Et peut-être pour résumer en terminant, pour moi une des phrases les plus importantes, c'est quand Abraham dialogue avec son Dieu. Il y a beaucoup de passages, nous y reviendrons sans doute quand nous prendrons plus de textes plus allongés que ceux que nous prenons ici, lorsque le Dieu résume un peu au fond la situation d'Abraham en disant Abraham crut en Yahvé et il lui fit compter comme justice.
Nous voici donc arrivés au terme de cette série de 3 émissions consacrées au chemin de lecture dans la Bible. Nous espérons avoir donné ou redonné envie à nos auditeurs de les emprunter. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Merci aussi à Christophe Aubry à la technique. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de votre émission Selon les Écritures. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.